Vous écoutez
RMC.
Bienvenue sur RMC, bon début de week-end. Il est 8h.
RMC, la matinale week-end.
L'heure du journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À la une, dans le meilleur des cas, ils se disent mal à l'aise. Souvent, ils se sentent jugés coupables pour une guerre qu'ils n'ont pas voulu. Témoignage à venir d'étudiants juifs face au mouvement pro-palestinien qui s'étend dans les écoles et les facs françaises. Dans l'actualité également, ni récupération politique, ni polémique. Juste un hommage à Mathis tué au couteau il y a une semaine. C'est ce que veulent ses parents qui organisent une marche blanche à Châteauroux cet après-midi. Et puis Bruno Le Maire, impliqué dans un accident de la route, le ministre de l'économie a renversé un cycliste.
Les lycéens veulent imiter les étudiants. Leur syndicat appelle à bloquer des établissements en soutien au peuple palestinien.
Début des actions lycéennes annoncées pour lundi. Elles suivront donc celles du supérieur à Lyon, Reims ou Dijon. Toutes dans le sillage de Sciences Po Paris où 91 manifestants ont été évacués hier. Et au milieu de ces manifestations, des étudiants de confession juive qui ont la sensation d'être stigmatisés. Alfred Orange les a rencontrés pour RMC.
Depuis plusieurs semaines, Lara, étudiante de confession juive, ne va plus en cours, épuisée du traitement infligé par ses camarades.
Les insultes, il n'y a quasiment plus personne qui me parle sur mon campus, les gens qui se mettent plus à côté de moi en cours. Quand on est juif aujourd'hui sur un campus, bah c'est bon, on est un soutien de Netanyahou, on est un juif d'extrême droite, un sioniste, colon. Donc ça devient très compliqué d'établir un dialogue. C'est un climat global qui s'est fait de soit on rejoint le mouvement pro-palestinien, soit on est sioniste, alors que c'est pas du tout aussi binaire que ça.
Devant cette polarisation du débat et des dérives qu'elle entraîne, Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France, appelle le gouvernement à la plus grande fermeté.
La mobilisation étudiante, en soi, c'est pas un problème. La cause pro-palestinienne, c'est pas un problème. Mais en revanche, de sanctionner fermement toute dérive antisémite et toute dérive dans des discours de violence, notamment la reprise de la rhétorique du Hamas. Ça, c'est sûr. Et la cause palestinienne ne peut justifier l'antisémitisme.
Avec son association, il multiplie désormais les rencontres en plein air pour tenter d'instaurer un dialogue apaisé entre étudiants.
Un dialogue loin d'être apaisé sur le plan diplomatique alors que le Hamas participera aujourd'hui à des négociations de trêve. Le secrétaire d'État américain réaffirme ce matin qu'une offensive israélienne sur Rafah causerait, je cite, des dommages au-delà de l'acceptable. Rafah, c'est cette ville gazaoui qui reste le prochain objectif d'Israël à Gaza. Tel Aviv accuse des combattants islamistes de s'y cacher parmi les réfugiés.
RMC 8h02, des slogans politiques au milieu d'un rassemblement pour Mathis à Châteauroux. C'est tout ce que voulait éviter la famille de l'adolescent tué la semaine dernière.
Et c'est tout ce qu'a fait un groupe nationaliste hier soir devant la mairie de la ville. Français, réveille-toi sur leur banderole. Afghans, dehors dans leur discours, référence à l'origine de l'auteur présumé des coup de couteau. Une marche blanche s'élancera cet après-midi dans une toute autre ambiance, comme l'explique Brice Taillon, adjoint à la mairie de Châteauroux.
On s'attend bien évidemment à énormément de monde, à la hauteur de l'émotion que ce drame a pu susciter. Le dispositif d'encadrement sera dimensionné à la hauteur de cet événement afin que les choses se passent dans le calme. Pour reprendre les termes du papa, dans la bonne humeur. C'est assez difficile de dire ça, mais c'est le souhait. Il n'y aurait rien de pire que de salir la volonté de cette famille et sa dignité par des actions qui ne seraient pas conformes à cet appel. Aujourd'hui, c'est le temps du deuil.
Et le cortège partira place Lafayette dans le centre-ville de Châteauroux à 15h30. La politique et le quatuor de tête de la majorité pour les prochaines élections européennes se dessinent. Derrière Valérie Ayer, les noms de Bernard Guetta, de Marie-Pierre Védrenne et de Pascal Canfin ressortent en interne. L'ancienne ministre Nathalie Loiseau serait-elle en cinquième position ? Une voiture qui renverse un cycliste à Paris. L'accident aurait pu passer inaperçu hier soir s'il n'avait pas impliqué un ministre. Bonjour Clara Gabillier.
Bonjour.
Et au volant de cette voiture, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Oui, il était environ 19h40 hier soir. Bruno Le Maire quitte son ministère. Il conduit sa voiture personnelle et à une intersection du 6e arrondissement de Paris, il percute un cycliste qui avait grillé le feu rouge. Cycliste en urgence relative, il a été transporté par les pompiers à l'hôpital Cochin. Il est blessé à l'arcade sourcilière et pourrait également souffrir d'un traumatisme crânien. Bruno Le Maire, lui, n'est pas blessé, indique son entourage. Il a répondu aux questions des policiers sur le lieu de l'accident. Le ministre soumis à un test d'alcoolémie et de dépistage de drogue. Les deux tests se sont révélés négatifs.
Les précisions de Clara Gabillet pour RMC. Merci Clara. On passe au sport avec du football et la relégation qui se rapproche pour Lorient, battu 2-0 en Ligue 1 par Lens hier soir. Les Merlus sont 17e à 3 points derrière le barragiste Metz qui peut creuser l'écart en cas de bon résultat face à Rennes. Coup d'envoi 19h.
Les athlètes olympiques finissent leur préparation répétition générale de natation artistique ce week-end.
Avec une étape de Coupe du Monde sur le site des JO, le centre aquatique flambant neuf, tout juste en face du Stade de France. Les meilleures nations seront là, parmi elles, les jumelles ukrainiennes Marina et Vladislava Alexeva, médaillées de bronze à Tokyo et qui s'entraînent habituellement sous les bombes à Kiev, Julien Richard.
Même à Paris, hors de portée des missiles russes, leur quotidien les rattrape. Il y a eu de l'orage mercredi, raconte Vladislava. On a eu peur du bruit. Puis on s'est dit, mais non, on est en Europe, ça va. Mais certains bruits nous font peur. Les jumelles ont choisi de rester s'entraîner au pays pour préparer les JO. Fin février, elles ont dû quitter leur ville de Kharkiv, devenue trop dangereuse pour la capitale Kiev. On se croirait dans un film d'horreur parfois, reprend Marina. On entend les explosions pendant l'entraînement, on court dans les abris, parfois 10 fois par jour. C'est très dur émotionnellement et mentalement. Quand on leur demande ce qu'elles attendent des Jeux à Paris, d'abord, il faut que l'on soit toujours en vie pour les Jeux, lance Marina avant que sa sœur ne reprenne. C'est une blague que l'on fait entre nous.
Représentant l'Ukraine.
Marina et Vladislava Alexeva, quatrième hier, rêvent d'offrir à l'Ukraine une médaille cet été dans cette piscine olympique.
Et Julien Richard pour RMC en cyclisme, c'est le début du Tour d'Italie cet après-midi. Première étape, 240 km jusqu'à Turin. En l'absence de la plupart des cadors du peloton, ça ressemble à un boulevard pour le Slovène Tadej Pogacar. Et puis une musique, rien qu'une musique, et vous saurez quelle journée mondiale on célèbre aujourd'hui. Voilà, Mathieu, Peggy, si vous n'avez pas trouvé, je ne peux plus rien pour vous.
Moi aussi, c'est Star Wars.
Star Wars. Et bien, sachez que les fans français ont le droit à 2 soirs de festivités. Ça commençait hier au Grand Rex, l'un des plus grands cinémas de France. 2 concerts symphoniques intitulés « May the 4th be with you », jeu de mots avec le 4 mai en anglais, pour ceux qui ne sont pas forcément bilingues. Et 47 ans après la sortie du premier film, l'engouement est toujours intact.
Je devais avoir 10 ans, j'ai regardé le premier, je suis tombé dedans et ça fait 30 ans que je les regarde, au moins, je ne les ai pas vus 300 fois, je ne les ai pas vus. On les a regardés la semaine dernière encore.
Il y a beaucoup de déco dans la maison, on a des tasses, tout ce genre de choses. On collectionne pas mal de choses au Star Wars.
J'aime bien les vaisseaux et les planètes.
Je suis fan d'un personnage en particulier, Dark Vador. Je trouve son histoire hyper intéressante, comment il s'est transformé de gentil à méchant. Je trouve qu'il y a une vraie morale derrière, psychologie, peur de l'abandon et tout. Il y a plein de réflexions philosophiques dans le monde de Star Wars, c'est ce que j'adore aussi.
Et cette journée mondiale de Star Wars, c'est pas n'importe quoi, hein, célébrée jusqu'à la Maison Blanche hier. Mark Hamill, vous savez, c'est l'acteur qui incarne Luke Skywalker, était reçu par Joe Biden. Biden que Mark Hamill a rebaptisé Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, le personnage, si vous avez pas compris, c'est normal, c'est de l'humour de Jedi.
Mais oh là.
Joli. C'est poussé, hein, quand même.
Ça va loin.
Bah, bien sûr, mais c'est Star Wars, ça se mérite. Merci beaucoup, Victor Pourchet. 8h08.
RMC, la matinale week-end.
Un séjour.
10 minutes chrono.
Oui, 10 minutes chrono. 10 minutes pour vous inscrire. Pour ce séjour de 2 jours dans l'une des Thalasso Valdis Resort.
Et vous allez pouvoir en plus bénéficier de 8 soins Thalasso, des soins de remise en forme, des massages, histoire de prendre soin de vous, le bonheur. Et c'est vous qui choisirez votre destination hein, parmi l'une des 4 Thalasso Valdis Resort, hôtel Thalasso et Spa de Bretagne, Loire-Atlantique ou en Vendée.
C'est pas la première fois hein, qu'on offre ce séjour.
Et à chaque fois, on a de très bons retours.
Ça cartonne, ouais. Hein, donc allez-y. Ce séjour Valdis Resort, 32-16, la touche 4. Le mot matin par SMS au 732-16. Matin par SMS au 732-16. Vous avez donc 10 minutes. Le gagnant ou la gagnante avec nous avant 8h30.
À suivre dans la matinale week-end.
Ils bloquent leurs établissements depuis une semaine et comptent bien poursuivre. 2 étudiants, Jack de Sciences Po Paris et Arthur Sabatier de l'UNEF, sont nos invités à 8h40 tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont raison de bloquer pour Gaza? Vos appels au 32-16 si vous souhaitez dialoguer avec eux dans une petite demi-heure.
À 8h20, la Story Sport avec vous, Arthur. Jean, de quoi vous nous parlez ce matin?
Ce matin, on parle d'une sélection olympique un peu méconnue, celle des réfugiés. Ils seront 36 à participer aux Jeux Olympiques de Paris et je vais vous en présenter quelques-uns.
matin.
D'abord, l'histoire d'un carton annoncé au cinéma. Un petit truc en plus, c'est le premier film de l'humoriste Artus qui met en scène des comédiens handicapés. Il signe le meilleur démarrage d'un film depuis Bienvenue chez les Ch'tis quand même. De quoi réjouir notre invité, Hervé Bernard, directeur de l'inclusion chez Handicap International, avec nous dans deux minutes sur RMC.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bon week-end à l'écoute d'RMC, il est 8h12.
Le témoin RMC.
Et notre témoin ce matin, Hervé Bernard, directeur technique de l'inclusion chez Handicap International.
Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu Rouault.
Merci d'être avec nous parce que c'est tout simplement phénoménal, le film d'Artus. Un petit truc en plus, c'est en salle depuis mercredi, s'apprête à entrer dans l'histoire du cinéma français. Le plus gros démarrage depuis Bienvenue chez les Ch'tis, 280 000 entrées, ça n'a l'air de rien. Sauf qu'en quelques jours, c'est plus qu'intouchable, c'est plus que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Succès assez inattendu. Vous avez vu le film ?
Oui, bien sûr. J'ai pu voir le film. J'ai trouvé une place hier soir pour voir le film.
Et alors ?
C'est un film fantastique. C'est un film qui est vraiment Handicap International se réjouit du succès du film d'Artus, car c'est vraiment un film qui met les personnes handicapées au centre de la comédie. Ce sont eux les acteurs, ce sont eux les vedettes de ce film. Et Artus et Clovis Cornillac, ben en fait, les mettent en valeur et sont presque eux-mêmes en situation de handicap par rapport à ces personnes qui leur apprennent la vraie vie, en quelque part.
À front renversé, c'est pour ça qu'on voulait en parler avec vous ce matin. Hervé Bernard, directeur technique de l'inclusion chez Handicap International. L'histoire donc d'un père, Clovis Cornillac, de son fils Artus, qui échappe à la police, essaye d'y échapper, qui trouve refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Comédie, vous le disiez, dans laquelle jouent une dizaine de personnes en situation de handicap.
On est en vacances ou on n'est pas en vacances?
Tiens.
Et
allez, on se casse. Allez.
Merde, il n'y avait plus la bagnole.
T'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi?
T'as des nouvelles du nouveau?
Sylvain?
Ouais.
J'ai eu ses parents, là, il arrive.
Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi?
Je vous présente Sylvain, les copains.
On peut y aller, là.
Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur?
Fils de pute!
On le voit, Hervé Bernard, ça frappe dans ses courts extraits. En fait, le handicap, c'est pas le sujet du film. C'est pas un film sur des handicapés, c'est un film avec des handicapés. C'est ça toute la différence.
Oui, c'est ça. Ils sont vraiment au centre du film. Ce sont eux les acteurs et on se prend au jeu de vivre avec eux cette expérience de colonie de vacances dans un superbe environnement en plus d'Auvergne-Rhône-Alpes et avec une découverte permanente du handicap, de la différence, que ce soit handicap intellectuel.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
8h21.
RMC,
la story sport.
L'histoire sport du jour avec Arthur Jean.
Bonjour Arthur.
Bonjour.
Ils seront 36 à concourir sous la même bannière aux Jeux Olympiques, celle de la section des réfugiés.
36 athlètes issus de 11 pays différents. Alors vous avez choisi, Arthur, de nous en présenter quelques-uns ce matin.
Et ça n'a pas été facile de choisir, hein, vous en doutez, puisque chacune de ces 36 histoires mériterait d'être racontée, évidemment. Sachez d'ailleurs que c'est la troisième fois de l'histoire qu'une équipe olympique des réfugiés participe aux Jeux Olympiques. C'était aussi le cas à Rio en 2016 et Tokyo en 2021. 11 pays différents, 12 disciplines, c'est très varié. Et là, vous vous demandez sans doute, mais est-ce que ces athlètes, ils ont de véritables chances de médaille? Eh bien oui. Cindy Ngamba, une boxeuse camerounaise, c'est la première dans l'histoire de la sélection à s'être qualifiée directement pour les Jeux Olympiques sans recevoir d'invitation. Elle est trois fois championne d'Angleterre dans trois catégories de poids différentes. En Angleterre, oui, son pays d'adoption. Puisqu'elle y arrive quand elle a 11 ans avec son frère pour espérer y trouver une vie meilleure, elle commence la boxe quelques années plus tard et devient vite très très forte, Cindy Ngamba. Problème, à 22 ans, on l'envoie dans un camp de détention, elle doit retourner au Cameroun. Heureusement, elle réussit à acquérir le statut de réfugiée et il valait mieux pour elle, écoutez.
J'ai obtenu mon statut de réfugié parce que c'est illégal d'être gay dans mon pays. Et si j'y suis renvoyée, j'irai en prison ou peut-être pire.
Pire parce qu'au Cameroun, effectivement, l'homosexualité s'est puni de 6 mois à 5 ans de prison et d'une amende allant jusqu'à 200 000 francs, sans compter sur les violences que subissent les membres de la communauté LGBT.
Alors elle s'entraîne, elle vit en Angleterre, mais il y en a aussi certains qui sont en France. C'est le cas de Jamal Valizadeh, un lutteur d'origine iranienne.
C'est ça, Jamal c'est un kurde iranien, il est bercé par la lutte dans sa famille, tout le monde en fait. Le problème, c'est que sa vie va changer complètement en 2014. Il participe à une manifestation en soutien aux Kurdes menacés par l'État islamique. Une manifestation violemment réprimée. Du coup, lui, il finit en prison. Il ne peut ni s'asseoir ni dormir plus de 20 minutes d'affilée. En sortant, il sait très bien qu'il n'aura pas le droit à un procès équitable. Du coup, direction Téhéran, la capitale. Ensuite, un chemin assez sinueux, c'est le cas de le dire. Il traverse les montagnes turques. Il rejoint la Grèce en bateau gonflable et il finit même à la nage. Il en parlait à nos confrères de France 3 Lorraine en février.
J'étais obligé de traverser pas mal de pays, pas mal de frontières. J'avais pas d'argent. Je dormais dans les forêts, dans la rue, à la gare, à droite, à gauche, seulement pour rester en vie.
Aujourd'hui, hein, il vit en France, hein, comme tu le disais, Mathieu, à Sarreguemines, en Moselle. C'est aussi là où il s'entraîne en attendant le début des JO cet été, où il espère sans doute briller, évidemment, même si en lutte, les places sont très très chères.
Oui, mais même avant le début des JO, il mérite des médailles.
Hein, c'est très clair.
Et j'imagine que c'est le cas pour les 34 autres.
Bien sûr.
Merci
bien
beaucoup, sûr. Arthur Jean. Votre story sport sur rmc.fr. 8h24.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Alors, qui va partir en thalasso ce matin? C'est une gagnante dans les Landes. Elle s'appelle Lara. Bonjour Lara.
Bonjour Lara.
Bonjour.
Ça va bien ce matin? Vous allez en pleine forme. Eh bien, écoutez, c'est parfait parce qu'on vous offre ce séjour de 2 jours dans l'une des Thalasso Valdis Resort. Vous allez bénéficier de 8 soins Thalasso, de massages et vous choisirez même l'endroit où vous irez, hein, Bretagne, la Loire-Atlantique ou la Vendée. Donc, Valdis Resort, hôtel Thalasso et spa.
Ah, c'est génial, merci beaucoup, merci infiniment.
Oh bah, on vous en prie Lara, merci à vous d'être fidèle à RMC, à la matinale week-end, d'avoir joué avec nous ce matin.
Ben oui. Ben, merci beaucoup, merci à toute l'équipe.
Profitez bien, envoyez-nous une petite carte postale.
Avec plaisir, pas de soucis, des selfies aussi.
Ah oui, carrément, on postera ça. Merci Lara.
Merci, bonne journée.
Le 10 minutes chrono sur RMC avec les Thalasso Valdis Resort. Prenez le temps de penser à vous et retrouvez votre vitalité dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort, hôtel Thalasso et Spa.
Et restez bien avec nous, vos infos de 8h30 arrivent dans quelques instants et la météo pluvieuse de Peggy Broche. Il est 8h30. Vous êtes sur RMC, c'est l'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité.
Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actu en 5 minutes avec vous, Anaïs Castagna, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une marche blanche pour Matisse à Châteauroux aujourd'hui. Ses parents ne veulent pas de récupération politique. Un appel à la mobilisation dans les lycées français pour soutenir Gaza. Et puis les portes ouvertes de la SPA font leur grand retour ce week-end.
On commence d'abord avec une semaine après la mort du jeune Matisse, cette marche blanche organisée cet après-midi à Châteauroux.
Oui, le cortège partira place Lafayette dans le centre-ville à 15h30 et passera par des endroits chers à Matisse, cet adolescent de 15 ans, mort après avoir reçu plusieurs coups de couteau samedi dernier à Châteauroux. Le suspect, âgé de 15 ans, est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Nouvelle affaire de violence chez les jeunes qui révolte Marie Sylvette, une habitante de Châteauroux qui sera présente cet après-midi dans la marche blanche pour rendre hommage à l'adolescent, mais pas seulement, elle appelle les Français à se réveiller. Écoutez, je voulais absolument vous la faire écouter.
Les gens doivent se poser des questions, il ne suffit pas d'aller marcher pour marcher. Non, il faut se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Pourquoi cette violence chez nos jeunes? Pourquoi? Il y a quand même un problème. Moi, ça m'inquiète. Et les gamins de 15 ans doivent vivre leur vie de 15 ans, d'adultes. Là, ça va beaucoup, beaucoup trop loin. En plus, ça touche notre Châteauroux, cette ville qu'on n'a jamais entendu parler aujourd'hui. Dès qu'on branche la télé, on est sur toutes les chaînes. Ah non, stop.
Selon la mairie, plusieurs milliers de personnes sont attendues cet après-midi. Les parents de Matisse appellent au calme et demandent à ce que la marche ne soit pas récupérée politiquement parce que la nationalité afghane des deux mises en examen, le suspect de 15 ans et sa mère, cristallisent les tensions depuis quelques jours. Certaines figures de la droite et de l'extrême droite dénonçant la politique migratoire du gouvernement. Et hier soir, une dizaine de militants identitaires et nationalistes masqués ont déployé des banderoles d'ailleurs à ce sujet devant la mairie de Châteauroux.
Après les étudiants, autour des lycéens de se mobiliser pour soutenir Gaza.
C'est en tout cas ce que souhaite l'Union syndicale lycéenne. Elle appelle les lycéens français à bloquer leurs établissements dès lundi. Depuis le début du mouvement étudiant lancé il y a une semaine, les lycéens et lycéennes sont présents sur les facultés et écoles en soutien aux étudiants mobilisés. À présent, c'est à notre tour d'occuper et de bloquer nos lieux d'études, écrit le syndicat dans un communiqué. Écoutez Gwen Thomas Alves, le président de l'Union syndicale lycéenne, qui se justifie.
N'importe quel être humain sur Terre doit être concerné par cette question-là. Nous, on considère que justement, enfin, entre les lycées et l'université, il y a juste seulement quelques années qui nous différencient et qu'on doit être en capacité de pouvoir mobiliser le plus de monde possible, comme ce qui s'est passé d'ailleurs en mai 68 avec les collectifs contre la guerre au Vietnam. Et on a des revendications très simples, hein, c'est le cessez-le-feu, la reconnaissance de l'État palestinien. Et comme ça fait depuis 7 mois qu'on en parle et qu'il n'y a pas eu d'action, on va dire, plus radicale comme le blocus, et depuis 7 mois, il ne se passe rien. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse justement imposer un rapport de force au gouvernement pour qu'il puisse prendre les décisions qui vont avec et qui vont dans le sens de la paix, ce qu'on porte depuis des mois.
Hier, les forces de l'ordre ont évacué les militants pro-palestiniens de Sciences Po Paris. 91 personnes sans incident. La fermeté est et restera totale, fait savoir Matignon. Alors que le Hamas participera aujourd'hui à des négociations de trêve au Caire, le Hamas, seul obstacle entre le peuple de Gaza et un cessez-le-feu, dit le secrétaire d'État américain, qui affirme par ailleurs qu'une attaque israélienne sur Rafah causerait des dommages au-delà de l'acceptable.
Anaïs, ce matin, vous vouliez également nous parler du transport partagé qui inquiète les malades.
Un projet de décret sur le partage du transport sanitaire en ambulance ou en taxi révélé hier prévoit un détour pouvant aller jusqu'à 30 km à destination ou au départ de l'hôpital. Une nouvelle qui inquiète les associations de patients mais aussi les ambulanciers. Bruno Basset, le président de la Fédération nationale des ambulanciers privés, la FNAP. Pour lui, cette mesure n'arrive pas au bon moment et elle est surtout insignifiante économiquement.
On va vous imposer de faire du transport partagé avec de l'incitatif. Est-ce que le territoire s'y prête? Est-ce que les établissements de santé sont organisés pour? Et là, on voit bien que tout cela n'est pas pris en compte dans ce projet de décret. Il suffit juste de regarder les autres modèles européens et on comprend qu'on est très en retard. On est en train d'inverser la dérive organisée et structurée par l'assurance maladie sur la tête des patients. Si tant est que cette mesure fasse des économies, on est sur des micro-économies. Regardons ce que coûte le transport sanitaire à l'échelon de l'entièreté des dépenses dans la santé et puis on va reposer la bonne question dans le bon ordre.
Le grand retour des journées portes ouvertes à la SPA aujourd'hui et demain dans les 64 centres refuges. Objectif, favoriser l'adoption responsable, mais aussi vous inciter à venir les aider. Parce que oui, la SPA a besoin de nombreux bénévoles au quotidien pour s'occuper des animaux, mais pas seulement. Écoutez ce que dit Nathalie Agobé, responsable du refuge du Garric près d'Albi, où 40 bénévoles se relaient aux côtés de salariés. Elle nous dit en quoi consiste leur mission.
Ça peut être du nettoyage, de l'aide au nettoyage, hein, que ce soit au niveau des chenilles, au niveau des chatteries. Ça peut être des missions de bénévolat pour les visites post-adoption. Hein, on envoie des bénévoles visiter les animaux et nos adoptants à la maison pour voir comment ça se passe et répondre à d'éventuelles questions s'ils en ont. Ça peut être des missions pour des signalements aussi, des animaux qui vivent dans de mauvaises conditions. Donc ça, c'est du bénévolat aussi. Mais c'est aussi l'organisation d'événements, de collectes. C'est la sensibilisation dans les écoles. Donc on a vraiment un très, très large choix de missions à offrir à nos bénévoles. Et toutes sont aussi importantes les unes que les autres.
Et puis le foot, Lens se rapproche de l'Europe après son succès 2-0 contre l'Orient hier lors de la 32e journée de Ligue 1. Pour les Bretons, c'est la Ligue 2 qui se profile. Les Lorientais sont avant-derniers avec 3 points de retard sur Le Havre et sur Metz qui joue aujourd'hui. Les Havrais reçoivent Strasbourg 15h. Le Havre 17e à égalité de points avec Metz, 18e et barragiste a encore son destin entre ses mains. Écoutez Abdoulaye Touré, milieu de terrain Havrais avant d'affronter Strasbourg justement cet après-midi.
C'est pour prendre un point et on avance comme ça jusqu'à la fin et on se maintient. Je le prends tout de suite. Le plus important, ça serait de donner une victoire à nos supporters parce qu'ils le méritent. Chaque point est important. Tant qu'on est devant Metz, ça m'arrange. À la fin, on fera les comptes, mais c'est sûr qu'il faut pas, il faut plus perdre de points maintenant.
Rendez-vous à 15h, à suivre également à 17h. Monaco-Clermont, Metz-Rennes 19h et Brest-Nantes à 21h.
Encore un bon week-end de sport et de football que vous verrez bien sûr sur RMC avec l'intégrale sport. Et avant ça, vos GG. 9h30 midi, Jean-Christophe Drouet et ses GG, ses grandes gueules du sport seront là. Il est 8h36.
À suivre dans la matinale week-end.
Ah, vous les voyez un peu partout en rayon, allégé en sucre, riche en fibres, bon pour votre système immunitaire. Que valent vraiment les mentions sanitaires sur les produits en supermarché? Comment sont-elles contrôlées? On va tout savoir ce matin avec Perico Legas, le beurre et l'argent du beurre, à 9h10.
Et à 8h50, on vous retrouve Anaïs Castagna pour le coup de main conso et on pense déjà au pont de l'Ascension.
Bah oui, qui arrive, long pont de l'Ascension, 5 jours avec 2 jours fériés d'affilée. On n'est pas prêt de revoir ça, je vais tout vous dire dans quelques minutes.
D'abord, Sciences Po, l'ESJ et bientôt les lycées. Les étudiants ont eu raison de bloquer leurs établissements. Vos appels ce matin au 32-16. Dans 2 minutes, 2 invités, Jack, porte-parole du mouvement à Sciences Po Paris et Arthur Sabatier, délégué général de l'UNEF, en direct sur RMC.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Merci d'avoir choisi RMC, il est 8h40.
L'entretien RMC.
Deux invités ce matin, Arthur Sabatier, délégué général de l'UNEF, et Jacques, étudiant à Sciences Po Paris, porte-parole du mouvement.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être là en studio en direct sur RMC, l'occasion de vous expliquer sur cette mobilisation qui se poursuit. Sciences Po Paris, Jack, bloqué puis à nouveau évacué hier. Manifestation au Panthéon, des perturbations, des occupations partielles dans de nombreux autres campus en France. C'est cette mobilisation étudiante pour Gaza, pour la Palestine, qui prend de l'ampleur. Est-ce que ça va continuer la semaine prochaine à Sciences Po ?
Eh bien oui, ça continue déjà à Sciences Po Nancy. Là, ils sont en train d'occuper et j'envoie toute ma solidarité à eux et à elles. Et là, nous, on va décider collectivement, bien sûr, démocratiquement, de ce qu'on fera la semaine prochaine. Il y a déjà un appel de lycéens à se mobiliser lundi et on réfléchira à les rejoindre.
Vous poursuivez, malgré la fermeté du gouvernement, c'est aussi le cas dans les universités, Arthur Sabatier ?
Oui, bien sûr. Et ce qui nous dérange le plus, justement, c'est un peu ces dérives autoritaristes du gouvernement. C'est quasiment du jamais vu. On a des flics en uniforme qui rentrent dans les facs, qui rentrent dans Sciences Po, un syndicaliste de la CGT qui se fait emprisonner, on a des manifs contre le racisme interdites. Ça fait quand même maintenant quelques semaines, quelques mois que le gouvernement rentre dans des grandes dérives. Honnêtement, ça nous fait très peur. On se dit que si vous voulez préparer le terrain pour les fascistes au pouvoir en 2027, ils feraient pas mieux. Parce que là, ils banalisent un peu cette autorité dans les consciences. Ils veulent mettre la jeunesse au pas. On essaie de nous militariser. Et ça se voit encore aujourd'hui. Le gouvernement a finalement peur que la jeunesse puisse s'organiser, se débattre, se mettre d'accord sur le droit de commun et arriver à peser un peu dans les bas publics. Et c'est pour ça qu'on nous envoie des hommes en uniforme armés dans les lieux de savoir, ce qui est quasiment jamais vu dans ce pays. Et
vous les avez vus, vous avez été délogés par
des CRS. Oui, on s'est menacé à la Sorbonne, par exemple, des pratiques en plus plutôt interdites, avec des policiers qui viennent fermer des places, vous entourer et empêcher les étudiants de sortir pendant plusieurs heures. Tout ça parce que
Macron... Mais vous empêchez les étudiants d'entrer, pour ceux qui
non,
veulent.
Non, mais personne n'a jamais raté, c'est partiel pour deux jours de blocage, vraiment. Et remettre en cause le blocage, c'est comme remettre en cause la grève dans son entreprise, ça n'a pas de sens. C'est un moyen de mobilisation légitime, c'est comme ça que le mouvement étudiant s'est construit dans ce pays, et c'est comme ça qu'on a obtenu tous nos droits, que ce soit les bourses, etc.
Le blocage, moyen de mobilisation légitime.
Tout à fait légitime, et s'il faut bloquer tout le pays pour qu'on nous entende, on bloquera toutes les facs du pays, il n'y a pas de souci. Personne ne rattrape partiel pour ça, c'est important. Et étudier, c'est pas qu'avoir de diplôme, c'est aussi ouvrir sa conscience, s'émanciper, réfléchir par soi-même.
Arthur Spatier, vous dites personne ne rattrape partiel, ça veut dire que vous vous engagez, Jack peut-être aussi à Sciences Po Paris, parce que c'est à partir de lundi certains examens, est-ce que vous vous engagez à ceux qui veulent participer à ces examens, concourir, puissent le faire?
Moi, je ne m'engage à rien. Moi, je suis un étudiant parmi tous ceux et celles qui sont mobilisés. Et
vous êtes porte-parole du mouvement. Hein.
Non, je ne suis pas porte-parole du mouvement. Je fais partie de ceux qui sont mobilisés. On n'a pas de chef, on n'a pas de porte-parole officiel. Par contre, il y en a plein qui se mobilisent. Il y en a plein qui ont des choses à dire et on est content de pouvoir l'exprimer. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà des examens, nous, on ne veut pas que la vie elle continue comme si de rien n'était. Mm-hmm. On ne veut pas que continuer d'aller en cours, les partenariats... divers et variés. On ne veut pas continuer que...
Les partenariats de Sciences Po Paris,
de Sciences Po et d'autres,
avec des associations...
Avec des universités, des avec universités des programmes de recherche de l'armée israélienne.
Qui soutiendrait le gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Qui soutiennent le génocide en cours à Gaza. Nous, c'est ça qui nous indigne, c'est qu'on continue comme si de rien n'était, alors qu'il y a des gens qui
meurent
aujourd'hui.
Quelles associations, Jack ? Quelles universités soutiennent publiquement le gouvernement de Benjamin Netanyahou ?
Il y a des partenariats avec... de recherche avec Raphaël notamment, de l'université Ben Gourion. Il y a des universités qui ont été construites sur des territoires occupés. En fait, ça, au-delà même de Sciences Po, c'est juste... Même Macron lui-même, en fait, on le sait, il soutient le génocide en cours à Gaza avec sa complicité. Il ne le dit pas expressément, mais il a envoyé nombre d'armes à l'État d'Israël. Il a soutenu la politique de Netanyahou. Et nous, ça nous indigne. Nous, on appelle tous ceux qui sont révoltés par ça à continuer à se mobiliser. Et je pense qu'on a bien raison de le faire.
Jack, vous disiez, on n'a pas de chef. Les lycéens non plus, j'imagine. Ceux qui souhaitent entrer dans le mouvement à partir de lundi, c'est un syndicat de lycéens pour le moment. C'est ce syndicat qui prend la décision d'entrer dans le mouvement. Vous n'avez pas eu de contact avec ce syndicat ?
Bah, en fait, des contacts, oui, on se connaît. Hein, voilà. Par contre, on est bien content qu'il y en ait qui se saisissent d'appeler à se bouger. Mm-hmm. Ce sont les... Voilà, et s'il y en a qui en
vous avez encouragé ou pas ?
Oui, moi j'encourage toutes les organisations qui veulent le faire. J'encourage.
Et est-ce que vous-même, vous avez été encouragé par des partis politiques ? Répondez à cette question parce que beaucoup disent clairement, vous êtes téléguidé par les Insoumis.
Oui. Non. Eh ben, on a été encouragés, ils sont venus nous soutenir. Eh ben, nous, on est contents qu'ils soient venus nous soutenir.
Ça... Encouragés ou ils vous ont demandé de vous mobiliser?
Non, ils nous ont encouragés. On s'est mobilisés avant, on se mobilisera après et on continuera. Ça, il n'y a pas de problème.
Arthur Sabatier.
Faut pas comprendre. Faut pas confondre la récupération et les soutiens, c'est important. À partir du moment où les hommes, les femmes politiques, les députés viennent sur les blocages, viennent sur les occupes pour visibiliser la cause, pour apporter leur soutien, sans effacer les étudiants et sans effacer les revendications étudiantes, pour
vous y êtes ouvert.
Bien sûr.
Ça ne vous dérange pas.
Mais non, et ça permet
quel aussi que les médias quelle que soit la couleur politique.
Bah, tant que c'est des partis progressistes respectables, avec plaisir, que ce soit les Insoumis ou les autres.
J'imagine que vous êtes un peu plus dérangé par le tweet de l'ayatollah Khamenei.
Mais évidemment, c'est même pas une question à laquelle il faut répondre. Enfin, si vous voulez qu'on condamne la dictature iranienne, il n'y a pas de souci. Et puis on peut condamner aussi la masse dans la foulée, évidemment qu'on le pense. Enfin, mais ça, pour le coup, c'est de la pure récupération. Enfin, c'est même pas sérieux et on n'avait pas envie de répondre à ça. Évidemment qu'on n'est pas pour une affreuse théocratie islamique. Bien sûr que non, on a avant tout des militants de la paix. Ça, c'est de la récupération. Par contre, quand une députée insoumise vient sur une fac, c'est pas la récupération, c'est du soutien. Ça visibilise la cause, ça vous permet d'être invité aujourd'hui, d'en parler, et peut-être même de diffuser ça auprès de plus d'étudiants et d'arriver à soulever Sciences Po et soulever les facs.
Je voudrais vous faire entendre Lara, qui a témoigné ce matin sur RMC. Elle est étudiante de confession juive. Elle ne va plus en cours, elle n'en peut plus d'être pointée du doigt. On l'écoute.
Les insultes, il n'y a quasiment plus personne qui me parle sur mon campus, les gens qui se mettent plus à côté de moi en cours. Quand on est juif aujourd'hui sur un campus, c'est bon, on est un soutien de Netanyahou, on est un juif d'extrême droite, un sioniste, colon. Donc ça devient très compliqué d'établir un dialogue. C'est un climat global qui s'est fait de soit on rejoint le mouvement pro-palestinien, soit on est sioniste, alors que ce n'est pas du tout aussi binaire que ça.
Votre réponse, peut-être à Sciences Po Paris, parce que c'est là qu'on a eu écho de ces étudiants juifs qui seraient empêchés d'entrer dans les locaux.
Soit clair, moi je dénonce les actes antisémites de toute nature, où qu'ils soient. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le soutien au peuple palestinien ne peut pas être amalgamé à de l'antisémitisme. Notre directeur à nous, il remet en cause la question d'étudiants et d'étudiantes juives qui soutiennent notre mobilisation, qui sont là dans l'occupation avec nous.
Votre mobilisation, ce n'est pas de l'antisémitisme déguisé?
Non, certainement pas, en fait, parce que d'ailleurs...
Pourquoi... C'est une question de Gilbert et d'autres auditeurs sur l'appli RMC. Pourquoi vous vous mobilisez particulièrement pour ce conflit-là et pas pour les autres? Pas pour l'Ukraine, pas pour ce qui se passe en République démocratique du Congo, pas pour ce qui se passe pour les Ouïghours en Chine? Arthur Sabatier.
Alors déjà, c'est des causes pour lesquelles on se mobilise. Peut-être que ça a moins pris pour des raisons conjoncturelles, mais je pense que s'il y a aussi une volonté des étudiants, peut-être en France, de se mobiliser particulièrement là-dessus, c'est aussi parce qu'on sait que l'État français, que le gouvernement français joue un rôle particulier dans ce conflit précis. Donc c'est aussi forcément un appel. Enfin, on est quand même la.
C'est d'abord un combat contre le gouvernement français.
Mais bien sûr, on est quand même la sixième puissance mondiale. Si à l'heure actuelle on met vraiment la pression sur la communauté internationale, qu'on appelle vraiment à cesser le feu et qu'on se donne les moyens, on peut avoir un impact très fort. On reste quand même la France, qui est un pays quand même très respecté dans le monde, très regardé.
Cesser le feu en discussion au Caire aujourd'hui.
Très bien.
Le Hamas est au Caire. Vous faites confiance au Hamas pour arriver à un cessez-le-feu?
Pas du tout. Moi, je ne fais pas confiance aux dirigeants obscurantistes du Hamas. Pas plus d'ailleurs que je fais confiance à Netanyahou ou à Macron. Nous, on se bat aussi contre cette société en général, contre cette société qui crée des injustices, comme vous l'avez dit, qui opprime des peuples partout sur la planète. Le combat de ces étudiants-là, c'est un combat international et il a bien raison d'exister, et il dénonce tous ces chefs qui, en fait, ne représentent pas les peuples de cette planète.
Merci beaucoup. Jack, étudiant, Master 1 à Sciences Po Paris. Arthur Sabatier, étudiant aussi Paris 8 Saint-Denis en licence 3, délégué général de l'UNEF par ailleurs. On aura l'occasion de vous réentendre à mesure que cette mobilisation se poursuit. Il est 8h48, vous êtes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Il est 8h50, 9h-10.
Oula. Ah. Alerte.
Eh oui. Vous savez que ça peut tomber à n'importe quel moment sur RMC, donc il faut bien écouter tout le temps RMC, jour et nuit. C'est quoi cette alerte? C'est le moment de vous inscrire. L'expérience RMC au Parc des Princes. Cette fois, on vous fait gagner vos places pour PSG Dortmund, bien sûr.
Et vous allez pouvoir en plus vivre cet événement d'une manière très particulière. Parce qu'avant le match, on vous propose la visite des studios RMC, de rencontrer les équipes. Ensuite, vous irez au Parc des Princes pour assister au match, avec la personne de votre choix évidemment. Et après, vous allez revenir à RMC dans les coulisses de l'after pour le débrief du match.
Franchement, ça fait envie.
La totale.
5 minutes pour vous inscrire, vous envoyez PSG par SMS au 732-16. 5 minutes à partir de maintenant. PSG par SMS au 732-16.
Mais d'abord...
RMC.
Le coup de main conso.
RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat, comment faire des économies au quotidien, et c'est avec Anaïs Castagna.
Anaïs, vous voulez féliciter ce matin celles et ceux qui ont pu poser leur vendredi 10 mai, vendredi prochain, pour avoir le mégapont, l'aqueduc de l'Ascension,
évidemment,
de mercredi à dimanche. Vous nous dites qu'ils ont eu raison d'en profiter.
Oui, parce que deux jours fériés d'affilée, c'est extrêmement rare. Ça arrivait seulement 6 fois depuis 1900. La dernière fois, c'était en 2013. Il n'y a pas si longtemps, mais est-ce que vous savez quand aurons-nous la chance de revivre cela?
Dites-nous tout.
En 2043, l'Ascension précédera le vendredi 8 mai. Ça fera donc 4 jours de coupure pour celles et ceux qui ne bossent pas le week-end. Il faudra attendre 2086 pour avoir à nouveau un pont de 5 jours. Oui. En même temps, en 2086, je ne suis pas sûre que les ponts de mai vous préoccupent encore énormément. Mathieu et Pelli.
Merci.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
Quel risque. Revenons donc à ce qui nous préoccupe réellement, le mégapont de la semaine prochaine qui réjouit les professionnels du tourisme, notamment la présidente de PAP qui se félicite en voyant les chiffres des réservations.
Le niveau de réservation pour le week-end de l'Ascension est très élevé cette année parce qu'on a une configuration exceptionnelle avec 2 jours fériés d'affilée, ce qui permet d'être en week-end dès le mardi soir et jusqu'au dimanche. En plus de ça, les écoles seront fermées, donc c'est vraiment un bon moment pour partir en famille. Du coup, sans surprise, c'est un carton. Le week-end de l'Ascension enregistre environ 44% de réservations de plus que le week-end du 1er mai. À lui tout seul, c'est environ la moitié des réservations du mois de mai.
Corinne Joly, présidente donc de PAP, je lui ai demandé quelles étaient les destinations les plus prisées. Réponse, 3 vacanciers sur 4 vont partir à la mer pour le pont de l'Ascension, particulièrement en Bretagne, en Vendée, en Charente-Maritime et en Côte d'Azur, où les prix sont moins chers que durant l'été. Donc c'est assez intéressant, finalement.
Et alors Anaïs, si on n'a pas encore réservé, est-ce qu'il y a encore des bons plans?
Alors on va pas se mentir, c'est de plus en plus compliqué, mais Corinne Joly vous dit où regarder.
Pour le week-end de l'Ascension, on peut partir en famille pour moins de 400 euros à Quiberon, Cabourg, Royan ou plus au sud, au Cap d'Agde ou encore à Sifour-les-Plages. Et puis si vous voulez encore réduire les frais, vous pouvez partir à 2 familles et diviser l'addition. On trouve encore des maisons pour 8 personnes à moins de 600 euros en Normandie, en Bretagne ou en Vendée-Charente.
Eh ben c'est pas mal ça, tout ça Royan. Allez, hop.
Ouais, le problème de ces destinations, c'est que niveau météo, on sait jamais. Quoique, ça s'annonce pas trop mal.
Ça ira mieux à partir de mardi. Alors, pas encore pour tout le monde, mais à partir de mardi, on devrait retrouver un temps beaucoup plus calme. Avec du soleil. En Bretagne, oui, ça c'est sûr.
J'espère, parce que figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de prendre son pont.
De partir.
De pas être là la semaine prochaine.
Quelqu'un s'appellerait un truc comme ça commence par Cass et ça se finit par Stania.
Exactement. Et qui va en Normandie.
Oui, bon, ça va.
Voilà. Je vous raconterai après. Hein.
Ouais. Bon, en attendant,
croise les doigts.
Conso sur rmc.fr. 8h54.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Jennifer, c'est bien, mais vous nous emmenez aussi à l'opéra ce matin, Peggy.
Eh oui, tous à l'opéra, c'est la 17e édition cette année. Jusqu'à demain, partout en France, les opéras ouvrent leurs portes gratuitement. L'occasion d'en découvrir les coulisses. Et le thème cette année, l'esprit d'équipe à l'approche des Jeux Olympiques. Objectif, c'est de démocratiser l'accès à l'opéra. Est-ce que vous y êtes déjà allé, Mathieu?
J'aimerais beaucoup, mais j'ai jamais osé. Hein.
Anaïs?
Oui, bien sûr, j'ai vu notamment du Verdi.
Excellent. Du Verdi.
Et c'est un moment fabuleux.
C'est génial. Et non, ne faites pas cette voix, parce que par exemple, en Italie, c'est populaire. Arrêtons de dire que c'est quelque chose pour les bourgeois. Pas du tout.
Exactement. C'est pas réservé à une certaine élite.
C'est pas donné.
C'est vrai. Mais on passe un très très bon moment. Et c'est vraiment incroyable. Et le parrain de cette édition, c'est Guillaume Diop, qui a été nommé danseur étoile à l'Opéra National de Paris en 2023. C'est une très belle idée, parce que souvent on dit que la danse est moins bien considérée dans les disciplines sportives, alors que c'est vraiment un sport à part entière. Et durant tout le week-end, donc, vous pourrez assister à des spectacles, des ateliers de chant, de danse, des visites libres, des visites guidées. Et on ne se rend pas forcément compte, il y a plein de métiers différents dans les opéras. Et vous allez pouvoir découvrir tout ça. Il y a 26 maisons d'opéra qui participent à l'opération. Tous à l'opéra, c'est aujourd'hui et jusqu'à demain.
Plein de petits rats.
Là, c'est du ballet, ouais.
Si vous voulez avoir beau le week-end prochain, arrêtez tout de suite.
Ça va.
Tous à l'opéra ce week-end. Et tous pour les infos de 9h. C'est dans quelques minutes sur RMC.
RMC. La matinale week-end.